à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de cette édition, au Moyen-Orient, les États-Unis et l'Iran ont de nouveau échangé des frappes. Aucune accalmie à ce stade après plus d'une semaine de bombardements. En Algérie, l'incendie d'un orphelinat de la banlieue d'Alger a fait cette nuit 11 morts et 19 blessés. Plusieurs enfants sont décédés, selon le président algérien Abdelmajid Tebboune. Et en France, Emmanuel Macron est arrivé dans la forêt de Fontainebleau pour soutenir les acteurs mobilisés pour lutter contre les incendies après une nuit calme sur le front des feux. Dans l'actualité au Moyen-Orient, tout d'abord, les États-Unis et l'Iran ont de nouveau échangé des frappes après plus d'une semaine de bombardements. L'état-major iranien a prévenu que l'Iran réduirait à néant des infrastructures du Moyen-Orient si les siennes sont attaquées après des menaces de Donald Trump de viser des ponts et des centrales électriques. Le ministre israélien de la Défense a exprimé la détermination d'Israël à maintenir ses forces déployées dans des zones de sécurité établies au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza. En Algérie, nous l'avons évoqué dans les titres, l'incendie d'un orphelinat de la banlieue d'Alger cette nuit a fait au moins 11 morts et 19 blessés selon les secours algériens. Le président Abdelmajid Tebboune a déploré la mort de plusieurs enfants. Le pays confronté à une sévère canicule a recensé près d'un millier de départs de feu en une semaine. Le Premier ministre français Sébastien Lecornu est arrivé hier soir à Rabat, au Maroc, pour une visite visant à approfondir le rapprochement entre les deux pays avant une possible visite du roi Mohamed VI à Paris. En France, Emmanuel Macron est arrivé dans la forêt de Fontainebleau pour soutenir les acteurs mobilisés pour lutter contre les incendies après une nuit calme sur le front des feux qui ont ravagé 2000 hectares depuis dimanche. Alors que la France en connaît une période de sécheresse exceptionnelle, les députés et sénateurs se réunissent aujourd'hui pour tenter d'aboutir à un compromis sur le projet de loi d'urgence agricole et ses mesures critiquées sur la gestion de l'eau et des pesticides. Et Météo France a annoncé la levée de la vigilance orange canicule dans 7 départements et sur l'ensemble de l'Île-de-France ce soir. L'épisode caniculaire continue de régresser dans le pays. À l'Assemblée nationale, hier, un vote historique a eu lieu. Après de longues années de débats, l'Assemblée a approuvé le droit à l'aide à mourir. 291 voix pour 241 voix contre. Dans l'hémicycle, les applaudissements de ses partisans ont résonné. Ses opposants, eux, se tournent vers le Conseil constitutionnel. Clara Dubanchet, revenons sur les origines de cette loi.
C'est la grande promesse sociétale majeure de la présidence d'Emmanuel Macron. Après 4 ans de débats, ce vote marque son aboutissement. En 2022, une convention citoyenne est organisée. Des Français tirés au sort débattent de cette question d'intérêt général et se prononcent pour l'instauration d'une aide active à mourir. En quelques mots, cette loi vise à autoriser et à accompagner un majeur malade qui a demandé à recourir à un produit létal sous réserve de remplir 5 conditions. Donc un projet de loi gouvernementale porte cette promesse, mais ralenti par la dissolution en 2024. C'est l'ex-député Olivier Falorni qui reprend ensuite le flambeau, dépose cette proposition de loi, votée hier, et salue l'adoption définitive du texte.
Et cette loi sur le droit à l'aide à mourir, c'est une loi éminemment républicaine, qui est le fruit d'un travail considérable, et qui aujourd'hui, enfin, arrive à son terme. J'ai l'impression d'avoir vécu une interminable odyssée et aujourd'hui cette loi arrive à bon port. Je crois que c'est un grand jour pour les Françaises et les Français.
Tout comme Olivier Falorni, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, applaudit le débouché des débats malgré les réticences de ses opposants.
Moi je crois profondément qu'il ne faut jamais avoir peur de la démocratie et jamais avoir peur de l'Assemblée nationale et des représentants du peuple que nous sommes. Et vous voyez, la représentation nationale a été à la hauteur sur ces débats. Et elle a, comme je le disais, c'est le débat le plus long depuis les années 80. Plus de 250 heures de débat dans l'hémicycle. Si vous rajoutez les plus de 100 heures en commission, ça fait des centaines d'heures de débat. Je ne dis pas que c'est trop. Mais en tout cas, c'est une réponse à ceux qui pensent que nous avons bâclé l'examen de ce texte.
Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Et si la gauche et les macronistes ont majoritairement voté pour, la droite et l'extrême droite ont davantage voté contre. Cependant, chaque groupe a laissé ses membres libres de leur vote pour ce sujet mêlant intime et politique.
Et quelles sont les étapes à venir ?
Il reste encore deux étapes décisives avant que ce nouveau droit rentre en vigueur. D'abord, il faudra attendre la décision du Conseil constitutionnel saisi par le Premier ministre Sébastien Lecornu pour tenir compte des oppositions. Ses membres, appelés les sages, devraient remettre leur décision d'ici le 15 août. Ensuite, Emmanuel Macron pourra promulguer le texte et le temps viendra de rédiger les décrets pour encadrer cette proposition de loi.
Merci Clara Dubanchet pour toutes ces précisions. La grande mosquée de Paris célébrait ses 100 ans hier. Inaugurée en 1926, ce lieu de culte a été édifié en hommage aux soldats musulmans morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale, comme le souligne l'actuel recteur Chemseddine Hafiz.
La grande mosquée de Paris, depuis sa création, il ne faut pas oublier que, comme l'a dit monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est une dette de sang. Il y a des milliers de morts musulmans pour que vive la France. Ce jour-là, ils se sont sacrifiés notamment à Verdun, dans les tranchées. Et pour cela, les autorités de l'époque ont décidé d'ériger une mosquée pour remercier les musulmans de ce sacrifice. Ben, depuis ce moment, comme je l'ai dit, ce n'est pas un caprice. C'est véritablement à la fois un deuil et une gratitude. Cette relation, je dirais, entre les musulmans et la République, elle s'est scellée au moment de la création de la Grande Mosquée de Paris. Je pourrais même dire que l'islam est rentré par la grande porte de la République, puisque, regardons ce lieu magnifique, il est où ? Il est à côté du Jardin des Plantes, il est à côté de Notre-Dame, à côté de la Sorbonne, à côté du Panthéon. Il est en plein milieu de ce qu'on appelle le quartier latin, c'est-à-dire le quartier des intellectuels, le beau Paris, comme on pourrait dire. Et donc, ce n'était pas un cadeau, je dirais, à bas bruit qui a été fait à l'époque. Ben, je crois que le message qui est important aujourd'hui, lorsqu'on fait ce constat pour l'avenir, notamment pour nos enfants de confession musulmane, soyez à la fois fiers d'être musulmans, mais en même temps, soyez citoyens, parce que l'un n'efface pas l'autre. Au contraire, les deux font de vous un citoyen idéal, parce que l'islam rappelle que pour être un bon musulman, il faut être un bon citoyen. Ben, c'est le message que la Grande Mosquée de Paris essaye de transmettre, et c'est pour cela qu'elle est aujourd'hui vent debout contre toutes les formes de discrimination, et notamment contre les attaques ignobles que subissent les musulmans, que subissent les mosquées. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui ces discriminations dont font l'objet les musulmans de France. Et je crois que c'est le message fondamental de la Grande Mosquée de Paris ce soir.
Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, au micro de François-Xavier de Calonne. Et de nombreuses personnalités politiques étaient présentes hier soir lors de la célébration de cet anniversaire. Parmi elles, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui parle d'un lien entre la France et l'islam qui s'instruit, se protège et se transmet.
Depuis 100 ans, la Grande Mosquée de Paris se tient immuable au cœur de Paris et donc au cœur de la République, comme le témoignage vivant d'une histoire ancienne, dense, parfois complexe, mais indissociable entre la France et l'islam. 100 ans après son inauguration, nous ne commémorons pas seulement l'édification d'un bâtiment. Nous regardons l'histoire en face, nous honorons une mémoire, nous considérons l'avenir. Il y a 100 ans, le premier recteur de la Grande Mosquée de Paris, Sikadir Ben Gabrit, parlait de l'union éternelle de la France et de l'islam. Pourtant, rien n'est jamais acquis, et ce lien se construit, se protège, se transmet. Cet édifice, depuis 100 ans, est un des lieux, parmi les 2500 mosquées que compte aujourd'hui le territoire national, où cette œuvre se poursuit. Cela fait de ces pierres dont nous fêtons le centenaire des pierres bien vivantes, des pierres qui sont très précieuses aussi, évidemment, à nos yeux.
Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, et le maire de Meaux, l'ancien ministre Jean-François Copé, présent à l'événement, souligne l'importance de cet anniversaire.
Ce moment, qui est un anniversaire majeur, hein, je rappelle que cette grande mosquée, elle a été construite avec le soutien de l'État, hein, c'était pas l'esprit de la loi de 1905, mais c'était en reconnaissance des sacrifices de la Première Guerre mondiale des Français de confession musulmane. Et nous ici, à Meaux, on est très sensible à ça, on a le musée de la Grande Guerre, donc on suit ça de près. Et puis c'est l'occasion aussi, en 2026, de rappeler la place des Français de confession musulmane, qui, pour l'essentiel d'entre eux, comme tous les citoyens, d'ailleurs, quelle que soit leur confession, ont des parcours de réussite, d'excellence, aiment incarner les valeurs de la République, et à nous de faire en sorte qu'il y ait une parfaite organisation des cultes dans notre pays. Et venir ici à la Grande Mosquée de Paris, c'est une manière pour moi aussi de saluer le travail qui est fait dans ce domaine.
Et on le voit hein, ce soir, il y a des personnalités issues de tous les cultes. Il y a aussi des personnes qui croient, d'autres qui ne croient pas. C'est ça aussi peut-être le fait de réunir toutes ces personnes, une manière de combattre le populisme.
Oui, et puis bon, aujourd'hui c'est une cérémonie qui vise justement à rendre hommage, qui que l'on soit, au travail qui est fait par la Grande Mosquée de Paris, justement, pour passer ces messages. Et donc vous avez ici des représentants de toutes les confessions, puis vous avez comme moi des laïcs qui sont là aussi pour témoigner en tant qu'élus du travail que nous devons faire tous ensemble.
Jean-François Copé, maire de Meaux et ancien ministre au micro de François-Xavier de Calonne. Et enfin, Mondial 2026 mené par l'Angleterre, l'Argentine avec un Lionel Messi double passeur décisif a renversé hier soir la situation en fin de match et rejoint donc l'Espagne en finale de la Coupe du Monde ce dimanche. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.